Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Pierre-Alexandre Bouclet.
À votre service. Alors, nous sommes maintenant de retour dans le studio de Radio Courtoisie pour entamer notre rendez-vous de la réinformation. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Pierre Gentillet.
Bonjour.
Qui nous revient de campagne, lui aussi.
Et oui.
Et avec qui, donc, nous allons essayer de décrypter notre actualité politique. Je rappelle, pour ceux qui voudraient se procurer le livre de Philippe Vardon, qu'on peut se le procurer dès maintenant en allant sur le site... pastroptard.fr, ça va, il y a plus compliqué comme adresse.
Ouais, on a fait simple.
pastroptard.fr, et sinon, bah, dès la semaine prochaine, vous pourrez le commander dans n'importe quelle librairie. Alors, on commence, si vous voulez bien, avec quelque chose qui m'a un peu étonné, qui est vous me direz, c'est pas très étonnant, mais c'est la gauche qui se dévore. Mais quand même, Jean-Yves Camus, politologue bien connu, depuis les années 90, j'ai l'impression, enfin, en tout cas j'ai l'impression de le voir à la télé depuis que je suis petit, qui vient de se faire, mais littéralement, mais démonter dans le journal Le Monde, avec tout le fiel et l'hypocrisie propre à ce quotidien, comme disait Jean Madiran, qui ment même sur sa date de parution. Et donc après Renaud Camus et le grand remplacement, donc c'est Jean-Yves Camus, à qui on reproche cette fois-ci donc, de ne pas être assez hostile, à l'extrême droite en général, et sa titre, Jean-Yves Camus, l'expert du RN rattrapé par son sujet. Et je cite, hein, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, ce spécialiste reconnu de l'extrême droite française serait-il trop complaisant à l'égard de son objet de recherche? Certains de ses anciens collègues chercheurs pointent l'ambiguïté de ses interventions et lui reprochent de participer à la normalisation du Rassemblement national simplement parce qu'il dit qu'il ne faut pas tous les tuer et qu'ils ne sont pas tous des nazis. Et on lui reproche aussi, ça c'est ce que je disais la semaine dernière, d'être allé aux obsèques de Jean-Marie Le Pen au lieu d'aller fêter sa mort, donc place de la République. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous a évoqué cette histoire, je ne sais pas si l'un de vous a envie de commencer. Jean-Yves Le Gallou.
Bah, je pense que Jean-Yves Camus, à la différence de beaucoup d'autres experts, entre guillemets, de l'extrême droite, il a plutôt tendance à voir les gens, et surtout à lire les textes, éventuellement aller aux réunions. Bon. Alors que la majorité de ses confrères ne procèdent pas ainsi, ils ne lisent pas les textes, en tout cas ils n'en parlent pas, et s'ils vont à une réunion, ou à un colloque, ou à un meeting, c'est pas pour écouter le message qui est porté, c'est pour essayer de ramasser des bribes de conversation exploitables dans la file d'attente. Voilà. Et donc, tu as une autre conception du métier. Lui fait objectivement un travail relativement objectif. Il a son angle qui n'est pas favorable, mais au moins, il regarde les faits. Ce n'est pas le cas de l'essentiel de ses confrères.
Ouais. Alexis Poulin, est-ce que vous avez un mot à dire sur cette attaque du Monde donc, contre Jean-Yves Camus?
C'est quand même, ça dénote un certain climat, c'est-à-dire que même des gens qu'on pouvait penser en dehors de tout soupçon et qui font justement ce travail de recherche hein, universitaire sont maintenant traités aussi hein, d'être dans le camp fasciste parce qu'ils s'intéressent à l'extrême droite et à un mouvement politique. Donc on voit bien qu'il y a une contraction terrible qui est en train de se faire hein, et que je trouve... cette radicalité va pas aider, je pense, le débat politique, sachant qu'il est déjà bien abîmé par le parti unique.
Ouais. Pierre Gentillet, un mot là.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de regarder qui a signé cet article.
Merci.
Ah bah oui, j'étais pris un peu l'argument, hein, Philippe. Mais l'auteur de cet article est un certain Robin D'Angelo, qui était l'ex-rédacteur en chef de Street Press.
Et, oui.
Et Street Press, pour les auditeurs qui n'auraient pas le bonheur de connaître ce torchon en ligne, c'est un média d'extrême gauche qui assume clairement d'être en lutte contre le RN. Vous savez, c'est partie de ces gens qui ont comme hobby pendant les élections de traquer les brebis galeuses. Brebis qui n'existent pas. Parfois, ils leur reprochent, j'ai vu ça à certains candidats du RN, d'avoir été candidat dans le FN des années 80-90. Ce qui est en soi une casserole. Donc, c'est encore une fois aussi l'illustration que dans des médias traditionnels, enfin traditionnels, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on sait ce qu'est Le Monde, c'est un journal qui va du gauche vers le centre-gauche, mais qu'on a une pénétration de ces différents médias par des militants d'extrême gauche. Et vous savez, vous disiez tout à l'heure que je revenais de campagne.
Impressionnant.
Ça se voit d'autant plus sur les médias locaux. Je pense que c'est encore plus impressionnant sur les médias locaux.
La presse quotidienne régionale,
que vous preniez La Nouvelle République, La Voix du Nord, ou La Dépêche du Midi, alors là c'est encore plus caricatural, La Dépêche du Midi.
Une exception près, ils ont fait campagne contre le candidat LFI à Toulouse.
Oui, peut-être. Alors,
c'est l'exception.
C'est l'exception qui confirme la règle. Mais vous avez effectivement une presse qui est infiltrée par des militants. Et là, en l'occurrence, pour ce pauvre Jean-Yves Camus, c'est un triste exemple. Maintenant, il ne faut peut-être pas dire trop de bien de Jean-Yves Camus à cette antenne, parce que sinon, ça va faire l'objet d'un autre article disant « Et regardez, la preuve, c'est même Radio Courtoisie dit du bien de Jean-Yves Camus. »
Vous savez qu'on lui reproche à ce monsieur d'être venu débattre à Radio Courtoisie.
Ah mais là, c'est un crime,
à Jean-Yves Le Gallou, d'ailleurs,
oui,
je crois.
C'est un crime.
Et d'avoir été accueilli, justement, avec courtoisie, c'est le cas de le dire.
Oui.
Mais c'est-à-dire que peut-être que si on lui avait jeté des œufs ou qu'on avait mis des clous sur sa chaise...
On lui aurait rendu service.
Oui.
Non, ce qui est, dans beaucoup d'autres pays européens, la norme. On débat dans d'autres pays européens, un événement comme la fête de l'UMA aurait accueilli le débat entre Jean-Yves Le Gallou et Jean-Yves Camus. Il faut avoir conscience en Italie.
En Belgique, non.
Mais même en Espagne, c'est plus ouvert. On a quand même... la Belgique est vraiment l'exemple.
Les deux pays extrêmes, si je puis dire, c'est la Belgique dans l'intolérance
et l'Italie dans la tolérance. On voit qu'à Atreyu...
Pas tous d'un coup, s'il vous plaît. Pas tous d'un coup.
Où on peut avoir un type du Parti démocrate qui vient débattre sans problème dans ces événements-là. Mais je veux juste insister sur ce que vient de dire Pierre Gentillet. Premier point, on n'a pas idée actuellement de la déferlante de journalistes antifa dans l'intégralité des médias français. C'est vrai pour le parcours du triste sire d'Angelo, qui était avant au JDD. Pauvrette, il n'a pas pu parler.
Ah oui.
qu'on retrouve maintenant au Monde, mais c'est vrai sur toute une génération. À Libé, on a des types comme Massé et Plotu. En fait, ils font du journalisme comme avant, on avait, on se souvenait, Réflexe et Ralph Front. Et ils font du journalisme exactement de la même façon. Ils font des fiches sur les gens. Et ça tient lieu d'articles et avec des choses qui sont gravissimes. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire ce que j'en pensais aux principaux concernés. Mais en fait, c'est très grave ce qu'ils font. Parce que d'aller dire telle jeune fille à 19 ans a déposé la manif pour tel événement, parfois juste parce qu'il faut bien le dire, c'est son copain qui était l'organisateur.
Oui.
Ça arrive quand même dans la vie militante, ça. Et donc, ad vitam aeternam, je vais la frapper du sceau de l'infamie pour toute la vie. Qui va l'accompagner et peut-être
dans son travail, etc.
À
l'école.
Ça, c'est grave ici. Et on a aujourd'hui, et par exemple, je souhaite bien du courage à Éric Ciotti avec une partie des nouveaux journalistes de la rédaction de Nice Matin qui sont connectés directement. C'est-à-dire que maintenant, le moindre fait antifa, la moindre manif, l'autocollant, etc., est monté en épingle dans la presse locale, repris ensuite la boucle Street Press, Blast, qui va ensuite rebondir sur la boucle Libé, et puis ça va jusqu'à France Télévisions. On a des exemples de ça très précis.
Ce qui fait que même à Libération, Nicolas Massol est pratiquement le meilleur de tous, parce que il est plutôt
il va être viré
cultivé
demain,
et sympathique. Oui, c'est pour ça que je dis ça. J'en dis du bien en espérant.
C'est les seuls articles de Libé que je lis. Hein. Je confirme. Il reste un affreux gauchiste, hein, mais
Bien sûr,
il le prendra bien. Il le
on voudrait pas qu'il se fasse virer.
mais documenté.
Par rapport à ce qui vient d'être dit sur Ciotti et autres. Je crois que la force de ces journaux et la force de ces journalistes, c'est tout simplement d'être pris au sérieux, d'être repris par ceux qui lisent. À partir du moment où on dit un candidat est une brebis galeuse, mais c'est très bien, il a toute sa place sur la liste, l'affaire tombe à plat. Ce qui les satisfait, c'est que les gens qui dirigent cèdent.
Et là, on si peut on féliciter.
C'est pareil pour les subventions. Regardez, je vais aller là, je vais aller très loin, je ne vais pas aller jusqu'à Édouard Philippe pour ma part, mais Mme Morançais, dans la région des Pays de Loire, elle a supprimé des subventions de gauche culturelle, elle a eu une manifestation, elle n'a pas plié, elle aurait plié, elle aurait disparu, eh bien elle a résisté. Le problème de ces journalistes, l'efficacité des journalistes, c'est la faiblesse dans notre camp.
Et c'est là où on peut féliciter Éric Zemmour, d'ailleurs, pour le coup.
Et le fait d'avoir repris le terme, parce que le terme brebis galeuse, ce n'est pas les journalistes qui l'ont inventé, il a été repris par Bardella, ce qui est, à mon avis, sa principale erreur. Et à partir de là, il a crédibilisé tout le discours des journalistes. Et évidemment, ils ont fait le coup pour les municipales en essayant d'éplucher les têtes de liste.
Avec extension du domaine de la Brune Galeuse.
Avec extension du domaine de la Brune Galeuse, sans voir que dans une élection municipale, il y a 50 personnes, 40 personnes, 30 personnes sur chaque liste, et qu'évidemment, on va trouver quelque chose.
Mais on en trouve aussi à gauche. Ce qui manque, c'est gauche, qu'on fasse ce boulot. Alors, à Radio Courtoisie, on commence à le faire tout doucement. Ah, c'est important de le faire.
Alors, moi, j'ai une position un peu différente là-dessus. Ah oui. Mais moi, je me méfie beaucoup de la moralisation de la vie politique et des passés politiques d'un tel à un tel. C'est-à-dire que je me permets peut-être effectivement un point de vue un petit peu différent. Je pense qu'il y a une certaine facilité à retourner le stigmate. Et on sent cette facilité partout. C'est-à-dire, on le voit sur LFI, si on essaie de faire de Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Jean-Marie Le Pen. Moi, je suis en désaccord total avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai encore mon rôle de c'est le fait d'avoir été longtemps chroniqueur. Je fais un peu de politique encore maintenant, je pense qu'il faut faire attention à cette facilité, à se dire, voilà, maintenant, on va diaboliser l'autre. Ce n'est pas parce qu'on diabolise la France insoumise, vous voyez par exemple que le Camp National est dédiabolisé. C'est un premier élément. C'est simplement qu'en fait, on crée un repoussoir supplémentaire et surtout, c'est-à-dire on introduit de la morale dans la politique. Et on détruit de ce fait la politique. On détruit de ce fait quelque part la politique, je trouve. C'est-à-dire qu'on entre dans des catégories. Moi, j'ai fait campagne, voyez-vous, à Argenton-sur-Creuse et j'étais face à des gens qui avaient que le mot extrême droite à la bouche. J'aurais pu leur répondre extrême gauche, jeune garde, parce qu'en l'occurrence, il y avait quelqu'un sur la liste qui avait été soutenu par la jeune garde, voyez, aux élections législatives. Mais en fait, là-dessus, on tue le débat politique. Voilà, c'est peut-être tout à fait naïf de ma part, mais je pense que c'est très dangereux parce qu'on va substituer aux catégories politiques des catégories théologiques. Vous savez, c'est Carl Schmitt qui a expliqué très bien ça, c'est-à-dire que le jour où on sera uniquement dans les anathèmes, dans les prises de position morale, on sera dans un état de guerre. De facto, on sera dans un état de guerre, parce que là, vraiment, moi, j'avais des gens qui, face à moi, étaient dans la prêche, étaient dans la morale. Vous voyez, donc si on décide de se mettre sur ce tempo-là, je pense qu'à la fin, ça ne va pas nous servir et ça va desservir le débat en général. Voilà, c'est ma position.
Alexis Poulain, un mot peut-être là-dessus sur cette histoire de moralisation de la politique. Est-ce qu'il faut renvoyer la monnaie de leur pièce aux gens qui scrutent comme ça les listes et le passé des candidats, ou est-ce qu'il faut faire, comme dit Pierre Gentillet, se mettre sur un autre niveau et rester digne ?
Non, je pense qu'il faut, rester digne et pas céder, parce que c'est évidemment la diabolisation à tous les étages. Enfin, on vit une époque où même humoriste, ça devient compliqué. Maintenant, les humoristes s'attaquent les uns les autres. On arrive à avoir une telle répression de la libre parole que quand on s'engage justement dans la vie publique, hein, la politique sous son nom, et qu'on le fait, on devrait avoir toute l'attitude pour le faire, dans le respect de la loi évidemment. Or on voit bien que la loi devient de plus en plus coercitive et qu'on a un problème, puisque le débat est totalement mutilé par cette censure, cette auto-censure, et maintenant c'est cette sorte de maccartisme, de chasse aux sorcières dans un camp ou dans l'autre, hein, d'ailleurs.
Ouais. Alors, on va essayer d'avancer sur Jean-Yves Camus. Alors, je voulais revenir quand même sur un point qui m'a choqué, moi. C'est que, je cite encore Le Monde, l'analyste, donc Jean-Yves Camus, est réapparu sur les plateaux de télévision à l'occasion de la mort du militant nationaliste Quentin de Ranque, passé à tabac le 12 février 2026 à Lyon. C'est joliment dit, hein, passé à tabac.
Oui. Lâché mortellement, voilà. Traduisons.
Par des militants, des militants antifascistes, dont certains agresseurs présumés ont appartenu à la Jeune Garde, une organisation proche de la France Insoumise. De France Inter à ses politiques,
c'est long à accoucher.
Jean-Yves Camus alerte, et là c'est eux qui citent Jean-Yves Camus, sur le langage de guerre civile de la gauche, pour qui, selon lui, tout ce qui n'est pas eux est fasciste. Alors là, on lui reproche en gros de condamner la logique de l'extrême gauche qui consiste à tuer les gens et ensuite à accuser tout ce qui bouge. Alors je sais pas
Non mais c'est le sujet central en réalité.
Le sujet central. Central, c'est qu'il a aussi écrit il a participé à un livre collectif avec Pierre-André Taguieff.
Mais c'est un règlement de compte politique.
Oui.
Et oui.
Lors des législatives, donc Taguieff est accusé d'avoir appelé à faire barrage à LFI plutôt qu'au RN. Et on lui reproche, à Camus ainsi qu'à Taguieff d'ailleurs, d'avoir participé à ce recueil qui réunit des intellectuels ayant en commun l'obsession de l'islamo-gauchisme, comme Rachel Kahn, l'anthropologue Florence Bergeau-Blackler, Michel Onfray ou Alain Finkielkraut, avec tous un point commun pratiquement, sauf Michel Onfray, qui est objectivement d'être de confession juive, manifestement.
Un petit peu concerné par la question de l'islamo-gauchisme, encore plus.
Et donc, je pense que là, on a... Alors, le cœur, c'est effectivement... il critique LFI, et surtout, il a rejoint, en gros, ce camp...
Sur l'affaire Quentin Derenck, c'est le seul chercheur, c'est un type de gauche, hein, Jean-Yves Camus,
oui.
C'est un adversaire politique, il a sa chronique hebdomadaire dans Charlie Hebdo, il nous fait pas de cadeaux, je vous invite à aller regarder. Il a pour lui d'être un petit peu plus objectif parce qu'un peu plus connaisseur, donc en fait il a la science que non plus ses plus jeunes confrères. Mais enfin, il appartient à la catégorie que moi j'appelle les fafologues. Il a fait toute sa vie de l'étude, et c'est un adversaire politique. Mais on lui reproche, dans le camp de la gauche, de ne pas être positionné sur la bonne. Et c'est le seul qui, sur les plateaux, il est vrai, sur l'infâme meurtre de Quentin Derenck, a fait entendre une voix un peu différente. Parce que les autres experts qui ont été convoqués, j'ai plus tous leurs noms en tête, mais alors il y a celle qui expliquait, qui a sorti, vous savez, les fameux chiffres sur la violence d'extrême droite qui serait ce qui ferait trembler toutes les démocraties européennes. Puis on se rend compte,
sans
finalement...
Sans rentrer les règlements de compte turcs là-dedans,
c'est ce qui fait gonfler les chiffres. Quand on va regarder... que cette chercheuse prenait la parole aux amphis, c'est-à-dire à l'université d'été de LFI, la même année que Raphaël Arnaud. C'est intéressant quand même. On a après un autre sociologue, lui aussi très spécialiste de la violence d'extrême droite, qui lui intervenait dans la librairie de Philippe Poutou, dont le nom est plus sympa que les idées du NPA, à Bordeaux. Donc ça, c'est les gens qui ont été convoqués sur le très sérieux service public, sur la très sérieuse antenne de BFM, et il y en a un, effectivement, qui a réussi à être invité trois fois, peut-être, et qui a dit, attendez, pardon, la gauche, elle est violente, ça existe, oui, il y a une extrême droite violente, mais pardon, c'est quand même un petit peu marginal, et finalement, ça l'est beaucoup moins qu'avant, et non, le RN n'est pas un parti nazi. Voilà, et effectivement... Du coup, dissonance cognitive dans toutes ces rédactions, puisqu'il fallait inviter, et là j'en ai cité deux dans le magazine, mais tous les types qui ont été invités, un autre invité comme spécialiste sur BFM, qui est dans la rédaction de Blast, média d'extrême gauche, dont on retrouve des images essayant d'agresser des militants nationalistes avec des militants antifa. Ah bah tiens, comme ça tombe bien. Voilà, c'est ça le profil. Et donc évidemment que Jean-Yves Camus, qui est à la fois une personnalité pondérée, sérieuse, menant donc des analyses pondérées, qui ne sont pas des analyses favorables mais pondérées, bah, il fallait l'éliminer. L'objectif de l'article est simple, qu'on ne le réinvite plus.
Juste en conclusion, ce qu'on reprochait à mon avis aussi, parce que moi il y a quelque chose qui m'a surpris effectivement dans la semaine qui a suivi la mort de Quentin Derenck, c'est que tous les experts qu'on avait sur des plateaux, c'était pas des experts de l'extrême gauche, c'était des experts de l'extrême droite. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que je crois pas en avoir vu un seul expert de l'extrême gauche.
Parce que ça n'existe pas.
Preuve, c'est le journaliste.
Preuve est donc faite ici que voilà, l'université n'est pas aussi neutre dans ses sujets de recherche qu'on le dit. Mais surtout, ce qui était intéressant quand on les écoutait tous. Et je pense qu'il faut faire cet effort, même si c'est une hygiène un peu compliquée, d'écouter ce qui se dit en face. Dans tous ces médias-là et dans tous ces fafologues, comme tu dis, qui venaient sur les plateaux.
Fafologue, c'est un terme gentil.
C'est un terme gentil. Ouais.
C'est pour que celui-là.
Les antifas ne peuvent pas être des meurtriers et des assassins parce qu'ils sont en réplique, ils sont en réponse à la violence. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exonère... la violence, oui, du camp de l'extrême gauche.
Alors,
et toute la mythologie, juste en un mot, toute la mythologie qui convoque la mythologie antifasciste, c'est ça, c'est on est antifasciste, on est en réponse à une violence qui existe vraiment, et là on convoque tous les experts des années 30, les Yon Chapoutot, etc., pour dire, écoutez,
ces gens-là ne font que se défendre.
Oui. Alors que c'est extraordinaire, ces gens-là ont tué.
Et pour l'affaire de Quentin Derenck, j'ai entendu parler d'autodéfense préventive, ce qui est quand même...
Oui.
Incroyable.
Phénoménal.
Mais de toute façon, les idées en elles-mêmes justifient de toute façon qu'on soit tué. Donc il n'y a même plus.
Exactement. Et comme Jean-Yves Camus a parlé différemment,
l'Italie des années de plomb, tuer un fasciste n'est pas un crime.
Non.
Voilà, c'est pas grave.
De même
Sartre en a dit autant.
De même que les idées justifient qu'on puisse tuer, les idées justifient qu'on puisse dissoudre et interdire.
Mais
c'est la même logique. L'extrême centre interdit, l'extrême gauche tue.
Alors, on passe au sujet suivant sans grande transition, même si on parle encore d'un homme de gauche. On va essayer d'y consacrer peu de temps, parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites et qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Lionel Jospin, le droit d'inventaire, donc l'ancien Premier ministre socialiste est mort donc lundi dernier à 88 ans, Il a été unanimement salué par l'ensemble des médias, y compris de droite. Sans doute, me suis-je dit, parce qu'il s'agissait d'un des derniers socialistes qui ne s'était pas fait amputer de la dignité et puis que son éducation protestante lui garantissait une certaine rectitude. C'est-à-dire, on garde de lui le fait qu'il a dénoncé le théâtre antifasciste et qu'il s'est désisté, enfin qu'il a quitté la vie politique le soir du 21 avril 2002 et qu'il n'est jamais revenu.
Ouais, le problème de Lionel Jospin, pardon, mais c'est qu'en fait, il n'y a rien de mal et il n'y a rien de vraiment bien à
dire. Il y a beaucoup de mal.
Il y a du mal.
Dans son bilan politique.
Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui laisse une certaine indifférence. Oui. Voilà. Parce que moi, vis-à-vis de l'homme, vous voyez la différence de gens comme Jean-Luc Mélenchon ou même François Mitterrand, vis-à-vis duquel on peut avoir une franche hostilité, etc. Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à reprocher à Lionel Jospin, mais sa personne elle-même, mais ça c'est mon intuition. Moi, je devais avoir 6 ans quand il est devenu Premier ministre, donc les souvenirs sont quand même assez anciens maintenant, me font dire que c'est quelqu'un qui est peut-être assez négligeable finalement dans l'histoire de France et que... Je sais pas si ça vaut la peine qu'on consacre autant. Reste l'homme des 35 heures, ça reste l'homme, effectivement, comme Jacques Chirac. Jacques Chirac, de celui qui a accompagné au même niveau les records d'immigration massive qui n'ont fait que s'accroître, etc. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas grand chose à en dire.
Et Jean-Yves Le Gallou ?
C'est la première victime
du vote. Voile de Creil.
Oui, le voile de Creil. Et c'est la première victime du vote ethnique.
Ah oui ?
Oui. Parce que il laisse aller, voire il encourage Taubira à être candidate.
Ah, c'est vrai.
Pour mobiliser vote, plutôt d'ailleurs le vote d'Homme-Tom, en l'occurrence, c'est un peu le vote ethnique. Et c'est les 2,5% de voix qui lui manquent pour accéder
au second tour.
Donc c'est la première victime du vote ethnique. Et la dernière victime du vote ethnique, c'est la mère socialiste de Creil, qui paye avec le retard, l'affaire du voile de 1989.
Alexis Poulain, un mot sur Jean-Yves... j'ai oublié son nom tellement il est...
Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il laisse indifférent.
Je pense que oui, Lionel Jospin, c'est une affaire propre au Parti Socialiste, on va dire. C'est toute une époque. Et on se rappelle de lui pour son retrait de la vie politique sur la défaite, évidemment, du second tour de 2001. Donc, il n'y a pas évidemment grand-chose à en dire. Si ce n'est que pour un homme de gauche, il a quand même une politique... de privatisation qui a été particulière. Et puis, c'est les 35 heures aussi qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver comment en sortir et que la France est sur une courbe d'endettement qui ne fait qu'empirer président après président, peu importe le bord politique. Donc, c'est vrai que pour Jospin, si on n'est pas au Parti Socialiste, on n'en a pas vraiment quelque chose à dire.
C'est ce qu'on appelle un enterrement.
Tout le monde se souvient de comment il est parti.
Oui, c'est ça. C'était son meilleur moment, d'ailleurs.
C'est ça, c'est alors on a oublié quand Jospin est arrivé en 1997, il y a eu un délire dans les médias sur le thème, il arrive, pardon pour le cochon, il arrive avec la Dream Team, c'est-à-dire qu'il avait Martine Aubry, les 35 heures, il avait Chevènement, une vague de régularisation, parce qu'on considère Chevènement, le gentil souverainiste, c'est une vague de régularisation. Et il avait à l'économie Strauss-Kahn. Voilà. C'était la Dream Team. Les médias ont parlé de la Dream Team.
L'équipe de rêve. Je vous rassure. Non, pas nous.
Et il faut quand même rappeler que c'était un trotskiste, autrement dit que tous ceux qui considèrent qu'il est inoffensif ne sont juste pas au courant du mal qu'il a fait. Voilà, parce que c'est ça le trotskisme. Et son trotskisme à lui a constitué, entre autres, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui ont fréquenté EDF, Areva et les autres entreprises dans le détail. C'est lui qui a fait rentrer tous ses potes trotskistes dans l'industrie nucléaire et dans les arcanes de l'industrie nucléaire étatique, et notamment les différentes instances de contrôle. Et c'est à partir de ce moment-là que, brusquement, tous les programmes nucléaires se sont tapés du retard et que toutes les centrales ont été réputées avoir été fissurées, etc. Donc, il a, lui aussi, contribué très volontairement à ruiner une partie de notre industrie énergétique. Donc... avec des coups foireux, avec des coups en douce, avec effectivement sa sale mentalité de protestant qui, d'un côté, d'un côté explique qu'il est vertueux et de l'autre effectivement couvre toutes les turpitudes. Mais non, mais c'est ça le protestantisme. Le protestantisme de Lionel Jospin, c'est celui de
Lionel Jospin.
C'est Lionel Jospin.
Mais oui, non, c'est celui aussi.
On a des auditeurs protestants fort sympathiques et
très bien.
Et ben les salue.
C'est un peu comme chaque fois qu'on critique les boomers et les gens nous disent mais moi je n'ai jamais voté Macron. Oui, bien sûr, vous n'avez jamais voté Macron.
Voilà.
Mais dans l'ensemble,
il y en a.
Eh ben, il y en a une grosse partie.
Il y en a.
Sur ce.
Bon, allez, on va passer à un autre sujet plus consensuel où il n'y a pas beaucoup de protestants là d'ailleurs. C'est les villes LFI, donc est-ce qu'elles seront des laboratoires de la nouvelle France, donc de la France du grand remplacement? On a beaucoup parlé au municipal, je crois en 97, d'un laboratoire du FN pour les municipales qui avaient été prises. Hein, c'était Vitrolles, Toulon,
Marignane,
Orange. Là, je crains qu'il y ait un fond de vérité dans ce qui se passe avec LFI. Donc, c'est une semaine après leur prise de contrôle. Donc, les maires LFI font déjà craindre le pire aux habitants qui n'ont pas voté pour eux. Ils instaurent ou ils poursuivent en tout cas une politique communautaire qui chamboule assez fortement les habitudes démocratiques en vigueur dans une nation homogène. Je dis les choses poliment. Hein. Vous verrez, là, il n'y a pas motif à plainte. Enfin, Maître Gentillet, voilà. Merci. j'essaye d'être le plus poli possible et le plus pondéré. Mais ils font aussi voler en éclats, et ça c'est intéressant, les rêves universalistes de la gauche, puisque avec ces élus, on descend... Là, l'universalisme de la gauche est complètement balayé. C'est-à-dire là, on arrive à un niveau tribal. Alors, je le dis au sens de Maffesoli, pas au sens des papous, mais au sens des tribus, c'est-à-dire les Azous, les papous, etc. Ben voilà, c'est sociologique et pas ethnique. Et une segmentation donc, du corps électoral qui est objectivement vraiment inédite. C'est-à-dire, on n'avait vraiment jamais vu ça. Et on note aussi des programmes qui pourraient vraiment être taillés sur mesure pour, par exemple, les trafiquants. Suppression des armes des policiers municipaux, suppression des caméras, remplacement des policiers municipaux par les grands frères. Ça, c'est à Saint-Denis. Par les grands frères.
C'est original, en plus.
Oui, oui, en plus. Oui. C'est Sceaux 90.
Déjà, personne n'a jamais... Oui, c'est Sceaux Jospin.
Oui. Oui. Et une certaine haine ou une défiance envers la police, et puis une dépression sur les fonctionnaires. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous ont évoqué ces municipales. Si vous avez et surtout les victoires donc de LFI et de cette France qui se met en place, cette nouvelle France.
C'est une très mauvaise nouvelle pour nos finances publiques et c'est une très bonne nouvelle pour la clarification du jeu politique. C'est une mauvaise nouvelle pour les finances publiques parce que toutes ces mairies LFI, grosse mairie, hein, Saint-Denis, je crois que c'est
100 000 habitants.
150 000
habitants. 150 000,
hein. Mais oui, parce qu'ils ont fusionné avec Pierre.
Ah oui, avec
oui, c'est Pierre Fitt.
C'est fusionné avec Pierre.
C'est ça. Donc, ce sont des grandes, pour certaines des grandes villes, on rajoute effectivement Creil et d'autres encore. Ce sont des villes qui vont s'endetter encore plus. Et vous voyez que certaines communes, vous connaissez peut-être le cas de Paris, qui est surendetté, dont on parlait. Un moment de tutelle qui n'est jamais arrivé. En réalité, on ne fait pas de tutelle pour les grandes villes, ça n'existe pas, au nom d'un principe constitutionnel qui est le principe d'autonomie des collectivités. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour ces communes-là? On le voit avec les annonces du maire de Saint-Denis. On va distribuer, on va être sur une politique du chèque.
Transport gratuit,
cantine
gratuite.
Et à la fin, ces gens-là viendront en justifiant, en disant « mais il n'y a qu'à prendre plus aux riches, ce n'est pas notre faute. Nous, on fait la bonne politique. » Et finalement, tout ça va encore creuser le trou des finances publiques. Donc c'est une mauvaise nouvelle sur le plan des finances publiques, ça c'est sûr, donc Nicolas va continuer à payer. Mais de l'autre côté, c'est aussi un acte de clarté politique. Vous avez vu comme moi les images de ces maires socialistes, ces maires communistes, au revoir Jean-Claude, qui ont failli pour certains être lynchés, ouais. Qui ont été hués en plein conseil municipal. C'était des scènes d'une certaine... sauvagerie, hein. Je dois dire qu'effectivement, on a vu les comportements, un membre dans la rue, tous ces gens qui poursuivaient l'ancien maire, ou même au sein du conseil municipal, c'est... alors, je sais qu'il ne faut pas se réjouir de ce genre de choses, mais moi, je trouve quand même que ça fait un peu de bien, pardon, de voir
c'est
qu'à la
quart
fin...
C'est quart d'heure de haine.
Non, mais encore une
plaisir.
Fois...
Pédagogique.
J'approuve aucune violence, bien évidemment, mais le retour de bâton est là. C'est-à-dire que ces gens-là ont vécu sur la bête depuis 30-40 ans. Sauf que voilà, maintenant, comme disait Rima Hassan, le temps du porte-parole est révolu. C'est-à-dire que ces gens-là, qui ne croient pas, il suffit d'écouter le maire de Saint-Denis, et pas que le maire de Saint-Denis d'ailleurs, qui ne croient pas aux questions à l'universalisme de gauche, qui ont foncièrement une vision ethnique de la politique. Voilà. Une déclaration, et j'en termine par là, très importante du maire de Saint-Denis. On l'interroge sur la gentrification, alors avec des grands guillemets, d'une partie de Saint-Denis. C'est-à-dire concrètement, je traduis gentrification, c'est-à-dire des Européens qui décident d'aller
en bourgeoise,
à Saint-Denis parce que le prix au mètre carré est plus bas. Et qu'a dit le maire de Saint-Denis ? Il a dit ça suffit, on est chez nous. C'est-à-dire que les populations historiques, alors j'imagine que les populations historiques, c'est celles qui sont là depuis quelques dizaines d'années.
Relativement récentes.
On ne va pas remonter à Clovis. Ces populations-là ont un droit à rester chez elles. C'est très très clair. Et je trouve que c'est à travers ces actes de clarté que nous, derrière, nous allons pouvoir progressivement accéder au pouvoir. Parce qu'il s'agit de faire ouvrir les yeux à tous nos concitoyens, à tous les Français, pour qu'ils voient ce que c'est l'avenir. L'avenir, ce n'est pas ce qu'a promis la gauche. C'est le tribalisme, c'est la partition. Ils le disent en face.
À tel point que là, on a quand même vu des gens, ceux qui ont été chassés des mairies, mais aussi cette élue d'opposition de Saint-Denis qui a préféré démissionner parce qu'elle s'était fait tabasser par trois racailles.
C'est un abandon de démissionner.
Oui, d'accord, mais bon, après, elle avait peur, la pauvre dame. En fait, elle s'est fait tabasser par trois racailles, mais tabasser, à coup de pied dans le ventre et tout, quoi. C'est vraiment quelque chose de grave. Et elle a vu ensuite le maire de Saint-Denis en grande conversation, se serrer la louche avec le commanditaire de son passage à tabac. Oui. Et elle s'est effondrée en larmes, elle est partie. Mais on a aussi, à Creil, la candidate socialiste blanche. Donc, d'abord, c'est une femme, ensuite, c'est une blanche. Elle vit avec un beeper qui est directement relié au commissariat de Creil, maintenant. Et elle a été, elle, la victime, je ne sais pas, d'ailleurs, ça, je vous demande votre avis. On a eu quelque chose de très très bizarre qui m'a semblé être, là encore, un vote ethnique assez impressionnant. C'est-à-dire que la liste d'hiver droite, par M. Noureddine Nachit, ce qui ne sent pas Clovis non plus, s'est retirée au second tour en appelant à voter pour Omar Yacoub, le Pakistanais de liste LFI. Oui. Et là, on se dit quand même, quand un mec d'hiver droite appelle à voter LFI, il y a un petit court-circuit.
Parce que les questions politiques n'existent plus.
Et ben voilà.
Les considérations politiques sont en train
de
t'effacer.
Le partage des étiquettes est un partage
et communautaire. Et c'est la blanche, bien sûr. C'est la femme blanche qui a été la victime de cette tractation entre la divers droite et LFI, ce qui est quand même assez unique, je pense, en France.
Parce qu'il n'y a pas d'autres cas, en effet.
Je sais pas. Alexis Poulain, est-ce que vous avez un point de vue
Ça peut fonctionner dans un pays homogène. Ouais. À partir du moment où il y a une pluralité d'origine, c'est de la mesure
ethnique. On est ramené à son
comme, si je puis me permettre cette comparaison, quand il y a eu la décolonisation en Afrique et qu'il y a eu la prétention de mettre en place des démocraties, eh bien, en fait, ça a été l'ethnie dominante qui a écrasé l'ethnie dominée, au sens numérique du terme.
Démographique, oui. Alexis Poulain.
C'est encore une fois peut-être un renouveau politique, mais qui va se faire de manière étonnante. Mais c'est vrai qu'il y a, les baronnies locales ont cédé. Enfin, on a vu quand même la victoire de Ciotti à Nice, c'est quand même quelque chose d'important de déboulonner Estrosi de cette façon-là. Mais c'est pareil aussi sur Creil, hein, quand on voit les pratiques de l'ancien maire, le clientélisme qui avait cours. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être remplacé par un nouveau clientélisme, mais au moins, ça bouge un peu. Maintenant, reste à voir ce qui va advenir de ces élections municipales dans la durée, quoi.
Alors, comment vous, un souverainiste de gauche, est-ce que vous percevez ce changement, justement, qui est vraiment une évolution tout à fait nouvelle en France?
Cette
évolution vers un vote ultra-communautaire.
Je crois que c'est l'américanisation qui continue, tout simplement. On est en train de...
C'est la francisation aussi, peut-être.
Ouais, je pense que c'est vraiment la suite de logique de mai 68, le travail aussi de ces ONG globalistes, le fait de faire en sorte que la vision anglo-saxonne du monde en Occident doit être la vision dominante. Et donc, c'est une vision de communauté, au-delà même du communautarisme. On parle de community, quand vous avez ces villages américains, tout tourne autour des communautés. Puis après, il y a les communautés, alors racisées, etc. On a vu ce qu'a fait le wokisme sur le débat politique aux États-Unis. Et je crois que c'est tout simplement la poursuite hein, de cette défrancisation de la politique en France. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les différents partis s'alignent sur des partis internationaux. Les campagnes étaient calquées aussi sur le maire de New York pour certains, sur Trump pour d'autres. Enfin, tout est vraiment inspiré. Calqué, moqué de cette vision anglo-saxonne du monde, sans réfléchir vraiment à savoir si c'est adapté pour la société française. Alors, ça ne l'est pas. Hein,
mais... je rebondis sur ce que vous dites, Alexis Poulain, mais en parlant d'internationalisation des municipales quand même, une grande partie des campagnes se sont faites sur le sujet de Gaza. Là, on se dit quand même, qu'est-ce que ça vient faire, Gaza,
c'est pas très américain, ça.
Les ronds-points de Saint-Denis.
Ah, si.
Quoi.
Non, mais avec la promesse de découpler les villes qui étaient couplées, par exemple, à des villages israéliens. Non, mais ça faisait partie des programmes.
C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des marqueurs politiques. Alors après, il y a eu d'autres villes où c'était quand même là, sur les projets locaux, il y avait encore quand même un peu d'ancrage local et de réalité. Mais sinon, pour un parti comme la France Insoumise, Gaza, c'était la seule façon d'arriver à breaker, excusez-moi de l'anglicisme, là encore, à entrer dans le jeu, en poussant justement sur cette thématique pour dire, voilà, nous, on n'est pas comme les autres. On est le seul parti à défendre la cause palestinienne d'une certaine façon, et donc on en prend plein la tête à cause de ça, donc votez pour nous, et c'est le succès de David Guiraud, clairement, à Roubaix, par exemple.
Jean-Yves Le Gallou.
Ouais, je pense que Gaza, c'est un peu l'équivalent du terme racisé, ça permet de mettre dans le même bloc des ethnies différentes, qui pour le moment peuvent voter ensemble, je pense, on peut penser aux Africains d'un côté,
aux Pakistanais,
aux Maghrébins, et qui, un jour ou l'autre, entreront en confrontation les uns avec les autres. Et moi, je vais même aller plus loin, si on ne réussit pas, on n'engage pas en Europe assez rapidement un mouvement de remigration, on aura à ce moment-là une forte communautarisation, et la communauté européenne sera peut-être amenée à avoir des alliances avec d'autres communautés, d'autres minorités. C'est vers ça qu'on va, si on ne procède pas rapidement à l'arrêt total de l'immigration et à la remigration, ce qui est évidemment ma préférence.
Oui, c'est-à-dire qu'on se dirige vers des alliances, en gros, qui vont se faire sur des bases ethno-religieuses, surtout religieuses. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait y avoir des alliances avec la communauté juive sur le fait qu'on partage une couleur de peau, et puis chrétienne avec des Africains, parce qu'on peut partager éventuellement une religion. Mais
D'autres avec les Asiatiques aussi.
Avec les Asiatiques, oui, voilà, oui, parce qu'on partage... Enfin, là, je me tais parce que
si on peut le dire, on partage avec eux des le chromosomes néandertaliens. Voilà.
Une sociabilité.
Ça ne sert à rien de chercher ce qu'on partage avec eux. Ils sont surtout identifiés comme n'étant pas les autres.
Oui, absolument.
Par les autres.
Voilà. Donc, ils ne sont pas les mêmes autres.
Voilà. Il y a les autres qui ont décidé qu'ils ne faisaient pas partie des
comme
autres.
Comme dirait Age Canonix dans Astérix, eux, ce sont des étrangers
qui ne sont pas de chez nous. Voilà, exactement. Ceux qui font profession de racialiser la France ont décidé que les Asiatiques ne faisaient pas partie des races racialisables.
Voilà. Philippe Bardon.
Non, mais de manière. Je souriais un petit peu en écoutant le camarade Poulain et. Analyse d'américanisation de la société. Dans ma tête, je me disais par moments, si seulement, quoi. Puisque la seule communauté qui n'a pas le droit d'exister, c'est la communauté des Français de souche européennes.
L'équivalent des WASP.
Le mot community, à mon avis, en anglais, est un petit peu un faux ami. Hein. Je me permets, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose que les communautés étrangères chez nous. Pour eux, c'est le cas des communautés locales, c'est-à-dire cette sociabilité, tout ce qui fait les liens chez les anglo-saxons. La réalité, c'est que chez nous, on est dans toute autre chose. C'est Marlon Maréchal qui l'a dit comme ça dans une formule. La démographie rattrape la démocratie. Point. Et quand on est dans un système où un homme, un vote, bah c'est assez évident finalement. Donc des communautés qui sont de plus en plus présentes, dont le lien est extrêmement fort, qui se positionnent essentiellement sur des liens de communauté, non pas sur des conflits d'idées comme c'est le cas chez nous en Europe. On s'affronte sur des idées, sur des concepts, ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs ce que départagent la politique et la démocratie. Et là, on est totalement dans autre chose. Et donc, à partir du moment où un homme égale un vote, eh bien, si vous avez une communauté qui se choisit un champion, non pas au titre des idées qu'il défendrait, vous citiez l'exemple, voilà, le divers droite, finalement, il est plus copain avec le LFI parce que bah, y a des liens qui sont
ça,
tout autres
c'est
que
vraiment...
la dimension...
politiquement totalement illogique.
Non, mais ça, oui, mais enfin, vraiment, ça n'a...
Sauf
ça,
si on considère que le critère ethnique est devenu la vraie
référence.
Et en même
temps, ça semble une évidence. Et dès lors, en réalité, c'est ce qu'on voit et ce qu'on observe là, et ça rend d'autant plus urgent, à minima, l'arrêt de l'immigration massive pour arrêter l'extension de la tâche de Léopard, parce que je rappelle, les prochaines municipales seront dans 7 ans.
7 ans.
7 ans. On en a combien dans 7 ans? Alors, des Vaux-en-Velin, des Creil
Avant de revenir sur ce que ça va être dans 7 ans, on va donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie et on revient sur ça juste après.
Alors ben, ça tombe bien, il y en a un qui demande que faire pour amorcer la remigration et un autre qui nous dit « Heureux de vous écouter ce soir, merci à M. Vardon d'être présent, vous êtes l'avant-garde et non le dernier carré. En 2026, nous avons des municipales, en 2027, si nous ne nous mobilisons pas enfin, aurons-nous une France léopard avec des enclaves islamistes ?» Et lui aussi repose la question, croyez-vous encore possible par la démocratie, les urnes, nos urnes, que nos représentants soient capables de résoudre le problème?
Absolument.
Ok, merci. Alors j'ai encore une autre question.
Absolument aussi, voilà, vous pouvez dire la question suivante. Non mais c'est évident que si on est dans le... Enfin, je pense dans le combat à la fois métapolitique et moi aussi dans le combat politique, je me suis présenté deux fois là, du coup, aux élections, c'est qu'on y croit. Et puis aussi, je pense qu'il n'y a aucune... Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucune irréversibilité, ce serait faux de dire ça, mais je pense qu'on a encore, au moment où on parle, les moyens d'inverser effectivement le cours des choses, à condition d'être lucide. Et l'avantage, entre guillemets, de cette situation-là, c'est que ça fait ouvrir les yeux. Ça fait ouvrir les yeux à
une majorité de gens. Moi, si j'étais socialiste aujourd'hui, j'ouvrirais grand les yeux. Si j'étais socialiste à Creil, à Saint-Denis, là, je me dirais quand même, il se passe un truc bizarre parce que je les ai défendus toute ma vie.
Ah bah oui.
Je leur ai fait tout le clientélisme souhaitable possible. Et voilà comment je suis remercié.
Vous vous souvenez Bernard Tapie?
Voilà comment je suis remercié.
Pierre-Alexandre, vous vous souvenez ce qui est arrivé Bernard Tapie? Qui a été cambriolé par des gens qui venaient de je ne sais quelle banlieue. Et quand il s'est fait tabasser, il a dit, ça a été raconté, il a dit aux gens qui étaient en train de le tabasser, il a dit « mais je me suis battu pour vous ». Et l'autre a dû lui répondre « mais ta gueule, donne-moi ton argent ».
Voilà, et le fils Tapie a dit dans le débat Le Pen Tapie. C'est Tapie qui a gagné, ce qui était vrai, mais celui qui avait raison, c'était Le Pen.
Ah, c'est bien.
Le débat remonte à 30 ans maintenant.
Oui,
oui, par rapport à l'optimisme de nos camarades sur la solution politique, oui, il y a une solution politique, il y a une solution électorale, à trois conditions. Que le pouvoir associatif soit brisé, c'est-à-dire les subventions, ça c'est pas très compliqué. Que le pouvoir médiatique soit brisé, là aussi c'est les subventions, c'est pas très compliqué, et que le pouvoir judiciaire soit brisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir judiciaire qui impose, qui limite la liberté d'expression et qui impose
C'est ce qu'a voulu faire Mélanie en Italie, elle n'a pas réussi malheureusement. Ouais. Elle a voulu faire passer une réforme, je m'égare un peu, mais c'est un point très important, effectivement. Reprendre le contrôle, ça suppose de bien identifier quels sont les outils du pouvoir. Et les outils du pouvoir, vous l'avez bien dit, c'est l'outil, surtout les deux derniers, hein, l'outil médiatique et il ne s'agit pas de nationaliser les médias, hein, je précise pour quelques fous qui nous écouteraient, mais il s'agit simplement effectivement de sortir ces subventions et effectivement de faire appliquer la volonté du peuple sur les décisions juridiques abstraites. Ça, c'est fondamental. Mélanie a tenté une réforme, elle n'a pas réussi, mais ça ne doit pas nous priver
c'était
sur l'espoir.
C'était pas tout à fait ça, la réforme
c'est
que
vrai,
tentait
c'est vrai, Léonie. C'est vrai. L'idée même de reprendre le Mélanie. Pouvoir sur les juges était l'idée qui était sous-jacente, d'après moi, sur ce référendum.
Le préalable à ça, c'est la prise du pouvoir politique. Et l'urgence, c'est la prise du pouvoir politique. Et c'est pour ça, dans la première partie de l'émission, vous me demandiez, mais votre chemin, c'est quoi? Mon chemin, c'est aussi l'urgence. C'est justement le fait de ne pas arriver jusqu'au trop tard. Et c'est de me dire, je le dis souvent, de ne pas laisser à mes enfants les combats que moi, j'aurais pas réussi à gagner. Voilà. Et donc, évidemment, on fait chacun notre part, on fait le maximum de ce qu'on peut. Mais moi, je suis habité par cette urgence. Et la prise de pouvoir politique est compliquée, difficile, et c'est un sport qui est extrêmement compliqué. On est certain l'avoir pratiqué. Et je le dis, aux professionnels de la critique, c'est extrêmement délicat et compliqué, et y compris des gens très solides comme Mélanie, comme Trump, sans doute, etc., ont toutes les difficultés du monde à
Et justement,
à
Philippe,
se faire,
hein. Parce que le sujet n'est pas... Je prolonge ce que vous dites. C'est le sujet n'est pas simplement... On l'a vu avec Donald Trump en 2016. Le sujet n'est pas simplement la prise de pouvoir.
L'exercice
c'est
du pouvoir,
absolument.
Évidemment.
C'est pour ça
évidemment.
Que ce que vous disiez, Jean-Yves, était très juste.
Évidemment.
Il s'agit, une fois qu'on a pris le pouvoir, le « on » est en général... de l'exercer. Et pour l'exercer, il faut bien repérer quels sont les contre-pouvoirs et, au fond, identifier l'état profond.
Voilà. Et avoir la volonté de le combattre.
Bien sûr.
Moi, je pense qu'il y a une alternance que je souhaite en 2027. Je pense que dans les 30 jours ou dans les 100 jours, on saura s'il se passe quelque chose.
Tout à fait d'accord avec vous.
Voilà. Oui. Bah, là, j'espère qu'il se passera quelque chose.
On peut se rappeler des mesures de Trump qui avait pris une centaine de décrets dès son arrivée.
Alors, il faut dire d'ailleurs que Trump a pu faire en 2024 ce qu'il n'a pas pu faire en 2016, parce que 2016 à 2020, il a pris le contrôle de la Cour suprême. Et comment il a pris le contrôle ? Ça, c'est américain. Il a pris le contrôle de la Cour suprême en bénéficiant de nombreux morts parmi les juges et en les remplaçant non pas par des mous, mais par des gens de conviction.
On te rappelle qu'ils sont nommés à vie.
Je voudrais ajouter deux choses. D'une part, ceux qu'il est allé piocher, c'est parce que ça faisait 50 ans que la droite travaillait à avoir des gens capables d'être élus à la Cour suprême.
Sûrement.
Une association précise de juristes. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, il n'a pas pris la Cour suprême en otage, puisque la Cour suprême rend régulièrement des décisions qui le rendent furieux. Ça veut dire qu'en fait, il a nommé des juristes. Il a nommé des bons juristes formés et des juristes de droite, mais qui ne sont pas à sa botte. Là, ils l'ont encore aligné il n'y a pas longtemps sur les droits de douane. Vous avez entendu ce que disait Trump. Il n'était pas joyeux. Donc, il a fait en sorte de nommer des gens compétents et de droite, et ces gens compétents et de droite se comportent effectivement comme des gens de droite. Non pas en idéologues tarés, mais au contraire, en gens de droite compétents. Oui. Et Trump, qui lui, malgré tout, a deux ou trois fêlures au casque, du coup, n'est pas systématiquement heureux des nominations qu'il a faites.
Ceci étant, même s'il a fait un certain travail en nommant les juges à la Cour suprême, je pense que le système qui consiste à confier la législation suprême à des juges non élus, que ce soit en France ou aux États-Unis, et même si ce sont des types compétents juridiquement, n'est pas un bon système. Le fait que M. Ferrand n'ait pas fait d'études de droit... ne change rien à l'opinion que j'ai par rapport au Conseil constitutionnel, sauf que c'est un argument de plus pour en dire du mal, voilà.
Tout à fait d'accord. Non, mais c'est... Non, mais cette question est fondamentale et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Richard Josset, c'est que on croit, il y a un petit discours qu'on entend, c'est il faut des juristes, il faut mettre des juristes, il faut des gens compétents, il faut sortir les idéologues. Mais c'est ne pas comprendre que les juristes travaillent sur des textes et des textes qui sont pétris d'idéologie. Quand le Conseil constitutionnel, même si demain le Conseil constitutionnel était composé de parfaits juristes, je dis bien de parfaits juristes, même des juristes, si vous voulez, avec un passé de droite, il n'empêche qu'ils ont dans leur champ de compétences la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'ils ont le préambule de la Constitution de 1946,
et
des textes
et
qui ne sont pas des textes vraiment juridiques et qu'ils interprètent, mais aussi parce que ces textes sont des bases idéologiques, bien sûr, d'une certaine plasticité, parce que ce ne sont pas vraiment des textes juridiques. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est un peu le roi Midas inversé. C'est-à-dire, si vous demandez à des juristes de faire du droit mais avec des éléments qui ne sont pas politiques, ils vont devenir politiques eux-mêmes, ils vont se transformer en politiques. C'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe.
Voilà.
Oui.
Mais il faut assumer complètement le fait politique. Moi, c'est ce que je crois. Il faut assumer le fait politique. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je suis par principe plutôt contre le principe d'une Cour suprême encore plus nommée à vie. Je pense qu'il devrait y avoir des mécanismes dans la Constitution qui nous permettent de contourner des décisions du Conseil constitutionnel, par exemple avec un vote à une majorité exigeante à l'Assemblée nationale ou même un référendum directement.
L'appel au peuple. On pourrait simplement revenir à la Constitution de 1958 jusqu'au coup d'État des juges en 1971. Et dans la Constitution de 1958, le juge constitutionnel n'a pas de regard sur le contenu du texte. Il a un regard sur la fabrication purement formelle, mais il n'a pas de regard sur le contenu du texte. Le contenu du texte, c'est le boulot des parlementaires, c'est le boulot du peuple s'il a un référendum, c'est pas le boulot de juge idéologique.
Ouais, alors, il nous reste rien, à peu près, moins d'une minute, donc on va s'arrêter là. On va garder en tête, un, qu'il nous faut donc un juge exit rapide, et ensuite, donc, on remercie évidemment Richard de Sèze, Pierre Gentillet, Jean-Yves Le Gallou, Alexis Poulain et Virginie. Et on remercie surtout Philippe Vardon qui va nous rappeler sa devise,
Il est certes très tard, mais il n'est pas encore trop tard.
Mais il est quand même vachement tard. Alors, on peut se procurer l'ouvrage de Philippe Vardon sur le site, donc pastroptard.fr, pastroptard.fr, ça n'est pas compliqué non plus. Voilà, et on vous donne rendez-vous demain avec Richard de Sèze pour un autre Restons Courtois, avec moi-même lundi prochain, et dans un instant, avec Thierry Lenz pour la suite de votre soirée sur Radio Courtoisie. À bientôt.
Ça suffit maintenant.